RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Allez, avant les infos de 16h, on va faire un nouveau point sur le passage de Thibaut Pinot qui devrait en terminer dans quelques instants. Fred, on rappelle qu'au point intermédiaire, eh bien Thibaut Pinot a fait mieux que se défendre, hein, le leader français de la FDJ.
Oui, il ne lâche après 7 km que 18 secondes sur Juan Dennis, meilleur temps provisoire, 18 secondes. Quand Quintana, qui a réalisé un très bon chrono, on le rappelle, lâchait 29 secondes. Est-ce que Pinot a tenu le coup et le rythme sur la deuxième partie du chrono? On va voir ça dans quelques instants. Ce sont les premiers enseignements. 13 km 800 de contre-la-montre ici à Utrecht. Ce n'est pas l'exercice de prédilection des grimpeurs que sont Quintana et Thibaut Pinot, mais on va tirer des enseignements dans quelques instants. Juan Dennis, qui, on vous le rappelle, tient le meilleur temps depuis un bout de temps maintenant, l'Australien de l'équipe BMC, qui a parcouru les 13 km 800 en moins de 15 minutes. C'est un chrono canon. Il relègue tout le monde à 15 ou 30 secondes. Il devance pour l'instant Van Emden et Castro Viejo. Le premier français, c'est Sylvain Chavanel à 45 secondes de Juan Dennis. Thibaut Pinot qui est dans le dernier kilomètre et qui va forcément limiter la casse. On vous rappelle que Quintana a lâché 1 minute et 1 seconde sur la ligne d'arrivée sur Juan Dennis. Thibaut Pinot, le grimpeur franc-comtois, qui est en train de sprinter dans les 500 derniers mètres. Thibaut Pinot toujours en position de contre-la-montre, la bouche grande ouverte, particulièrement à son affaire. Il va perdre moins d'une minute, c'est sûr. Il va faire beaucoup mieux que Nairo Quintana. Thibaut Pinot, troisième du dernier Tour de France, qui franchit la ligne à l'instant avec un débours de 41 secondes. Il prend d'entrée de jeu dès la première étape de ce Tour de France 20 secondes à Nairo Quintana. Ce ne seront peut-être que des broutilles dans 3 semaines sur les Champs-Élysées, mais Thibaut Pinot est dans une condition optimale. Il faudra compter sur lui, non seulement en montagne, mais aussi pour le classement général. C'est une certitude, il a tous les atouts pour briller. Il est particulièrement à son affaire, Thibaut.
Voilà la bonne surprise de ce début d'après-midi. Voilà la bonne surprise de cette première étape du Tour de France. Thibaut Pinot confirme qu'il est en grande forme. 41 secondes de retard seulement sur les grands spécialistes du chrono et 20 secondes de mieux que Nairo Quintana, l'un des 4 fantastiques. Et si on tenait là le 5e fantastique de ce Tour de France, on l'espère évidemment. On rappelle que Thibaut a tout de même terminé 3e de la grande boucle 2014. Allez, 16h03, les infos tout de suite et on revient ici sur la route du Tour dans quelques instants.
RMC Intégral Tour.
Tu te mets sur le vélo, voilà, tu te mets bien droit, voilà.
Christophe Cessieux.
Et tu poses genre j'attaque le col, ok?
On est encore loin des cols, évidemment, du Tour de France. Pour cela, il faudra attendre la deuxième partie de cette grande boucle. Pour l'instant, nous sommes sur les routes plates et très chaudes de Hollande, autour d'Utrecht, pour cette première étape du Tour de France. 13 km 800 avec toute la Dream Team. Cyril Guimard, Luc Leblanc, Fred Adam. Ah, Thibaut Pinot. Non, on va écouter Thibaut Pinot dans quelques instants. Fred, on va rappeler donc la très belle performance du Français. On savait qu'il avait fait des progrès en contre-la-montre. Ça se vérifie comme ça semaine après semaine. Mais là, me montrer comme ça au départ de ce Tour de France, c'est évidemment une très bonne surprise.
Oui, c'est la preuve que Thibaut Pinot, après sa 3e place au classement final sur le Tour 2014, a encore pris de la maturité et de la maturité physique puisqu'il tient la distance sur 13 km 800. Il a les chevaux et il avait l'implication, ça s'est vu dans ces 13 km 800, son attitude, sa concentration, la manière dont il négociait les trajectoires. Thibaut Pinot, 9e temps provisoire à 41 secondes du meilleur temps, Juan Dennis, l'Australien de l'équipe BMC, qui est toujours en tête, qui sera très très dur à déloger, l'ancien recordman de l'heure. Thibaut Pinot qui, pour vous situer le niveau de la performance, a fait mieux que Quintana, qui avait déjà fait un très bon chrono de 20 secondes. Il a pris 20 secondes au Colombien de l'équipe Movistar, mais il a fait mieux que Sylvain Chavanel, le sextuple champion de France de la spécialité. Il a fait mieux que John Degenkolb, que Taramae, que Kreuzweig, des références sur ce type de parcours. Thibaut Pinot qui est la grosse satisfaction du jour pour l'instant, la grosse surprise. On savait qu'on ne s'embêterait pas dès la première semaine. Eh bien, je pensais pas que dès le premier jour, dès cette première étape chronométrée, on aurait autant d'enseignements. Et ce n'est pas tout, puisque les gros favoris s'élanceront à partir de 16h40, 16h45, avec, rappelons-le, Fabian Cancellara aux alentours de 17h, et le dernier à s'élancer, ce sera Vincenzo Nibali. Très joli coup réalisé par la FDJ et Thibaut Pinot.
La première réaction du champion français au micro de Pierre-Yves Leroux, on l'écoute tout de suite. Thibaut Pinot.
Mais bon, là c'est anecdotique. C'est un chrono que j'aime bien, c'est roulant, rectiligne, donc là on peut vraiment développer sa bonne puissance. Voilà, je voulais juste me rassurer, voilà, je suis dans les temps, c'est bien.
Vous êtes bien rentré dans le tour là, avec ce chrono, comment ça s'est passé? Comment vous êtes senti?
Bon, je me suis bien senti, c'est vrai que ce matin quand j'ai découvert le chrono, il m'a plu tout de suite. Malgré qu'il soit à tout plat, moi ce que j'aime bien c'est les efforts linéaires. Et ça c'est un beau chrono de spécialiste.
Voilà, un beau chrono réalisé par Thibaut Pinot. Cyril, réaction sur le temps de Thibaut. Voilà, bon, c'est pas le meilleur temps évidemment de ce contre-la-montre, mais l'essentiel c'est de ne pas perdre trop de temps par rapport aux favoris. Évidemment, Chris Froome ne s'est pas encore élancé, Nibali non plus. Ils vont sans doute être meilleurs que Thibaut, mais en tous les cas, c'est enfin, pas
objectif atteint.
Objectif atteint, voilà. Ouais. L'objectif, c'est de ne pas perdre trop de temps.
Il reste dans les points, il est devant Quintana, et de toute façon, il ne sera pas très loin, même s'il réalise de grandes performances, pas très loin de Nibali, de Contador ou de Froome, puisque la performance de Ron Dennis ne sera vraisemblablement pas battue par les favoris de ce Tour de France, ou tout du moins s'en approcherait au maximum, ce qui le mettrait à une quarantaine de secondes. Comme dirait l'autre, la guerre n'est pas perdue.
Mais psychologiquement, Christophe, c'est très important que Pinot commence très très bien le Tour de France, surtout dans un contre-la-montre quand même bon court. Il n'est pas excessivement long, 13 km 800, et ça inaugure quelque chose de très très bien pour Pinot dans les prochains jours.
Exactement. Pierre-Yves Leroux sur la ligne d'arrivée qui a donc réalisé l'interview il y a quelques instants de Thibaut. On n'a pas entendu la fin, Pierre-Yves. Il a ajouté quelque chose en fin d'interview,
Notamment par rapport aux moyennes 55 km/h, ce qui est assez dingue. Et c'est vrai qu'il était très satisfait de sa performance. Et ensuite, il a terminé sur l'étape déjà demain. Il est déjà à se mettre dans l'étape de demain avec le vent et l'équipe qui est prête aussi pour ça, parce qu'il peut y avoir du danger aussi demain. Voilà, mais plutôt satisfait, mais beaucoup beaucoup de sueur évidemment sur le visage de Thibaut Pinot, qui s'est arrosé largement pour essayer de faire redescendre la température du moteur.
Très bien. Fred, on ajoute que Thibaut, lors des dernières courses qu'il a effectuées, a fait de très bons résultats, notamment en remportant les étapes de montagne. C'était le cas au Tour de Suisse, au Tour de Romandie, mais qu'il a perdu du temps sur des étapes intermédiaires, pris dans des cassures ou retardé bêtement. Cette première semaine fait évidemment très peur à tout le monde, et peut-être un peu plus à Thibaut, pas plus d'ailleurs qu'aux autres, mais bon, on sait qu'il peut de temps en temps manquer un peu de concentration. C'est peut-être ça qu'il faut améliorer.
Oui, il était leader du Tour de Suisse après sa victoire sur le glacier de Zolden, mais c'est vrai que derrière c'est un tout autre boulot de faire la course en tête du classement général avec une équipe mobilisée à ses côtés, rester à l'avant, éviter les cassures. Le final des étapes là-bas en Suisse était très casse-gueule, de vrai gymkhana quotidien. Il a lâché du temps dans les cassures. Il a aussi lâché du temps, faut le rappeler quand même, sur le dernier contre-la-montre du Tour de Suisse. C'est là qu'il tombe du podium et c'est là qu'il termine quatrième du classement général. Il était un peu sec, un peu à bout. Il a lâché de l'influx avec ce maillot jaune sur le dos. Là, manifestement, il arrive frais et il arrive surtout totalement impliqué. Son attitude, que ce soit dans les conférences de presse, aux entraînements les jours précédant ce départ du Tour, ou tout à l'heure sur les rouleaux avec le casque et la musique dans les oreilles, son attitude est plus encore dans la manière de conduire son engin sur le parcours de ce contre-la-montre, montre qu'il est totalement dans le Tour. Il n'y a pas de temps mort, il est totalement impliqué, et c'est très bien, ça ne part pas à l'envers. On sait que quand la spirale commence de travers, c'est difficile à inverser. Pour l'instant, tout va bien. Demain, il y a les digues, il y a du vent, il y a des bordures.
Demain est un autre jour.
Le tour est très long.
Voilà, il faut prendre les étapes les unes après les autres, comme diraient les footballeurs. Évidemment, tout le monde n'est pas fan de Thibaut Pinot. OM4Life nous dit: arrêtez de vous satisfaire de ce chrono pour Pinot. Il va prendre un éclat par Froome. Oui, bah, c'est possible. Mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir mis un éclat à Nairo Quintana. On ne l'attendait pas forcément. Fred, 16h16, c'est l'heure de la question du jour.
Oui, pour les pistes froides là qui nous refroidissent. 121 coureurs ont terminé ce contre-la-montre pour l'instant, ce contre-la-montre inaugural. 121 coureurs ont franchi la ligne. Thibaut Pinot est 9e pour l'instant.
Ah ouais, c'est pas mal du tout. Très bien, c'est l'heure donc de la question du jour avec notre confrère du Parisien aujourd'hui en France, David Obozinski, qui est avec nous. Salut David.
Bonjour messieurs, bonjour à
tous. La question, on va la rappeler parce qu'on n'a pas évoqué ce sujet encore, on n'a pas eu le temps pris par tout ce qui s'est passé. Fred, on va rappeler le départ départ dans quelques minutes d'un certain Lars Boom, le champion néerlandais, coéquipier
de
Vincenzo Nibali. Lars Boom, dont les résultats de la visite médicale n'ont pas été probants hier. Il n'aurait pas dû prendre le départ du Tour selon les règles établies par le MPCC, mouvement pour un cyclisme crédible. C'est un peu compliqué à expliquer.
Ouais.
Dis-nous un
petit
peu.
On va essayer de simplifier tout ça. Il existe un mouvement, une association française qui s'est constituée après les nombreux scandales de dopage au début des années 2000. Elle s'appelle le Mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC. Plusieurs équipes s'y rallient ou ne s'y rallient pas et elles respectent donc des règles qui sont bien plus draconienne que celle imposée par l'Union Cycliste Internationale, notamment sur certains taux avant les courses. Et Lars Boom, néerlandais de 29 ans, vainqueur de l'étape des pavés l'an passé, présentait hier un taux de cortisol, une cortisolémie, c'est-à-dire un niveau de cortisone naturellement produite par notre organisme, trop bas pour, sanitairement parlant, prendre le départ d'une course aussi exigeante qu'un grand tour, qu'une course de 3 semaines. On ne parle pas là d'un cas de dopage avéré, on parle là de niveaux qui peuvent potentiellement mettre en danger la santé du coureur. Astana, l'équipe dirigée par Vino Kurov et dont le leader, tu l'as rappelé, est Vincenzo Nibali, fait partie du MPCC. Elle aurait dû donc retirer Lars Boom de la liste de ses engagés si elle avait complètement adhéré et respecté les règles du MPCC. Elle ne l'a pas fait. De fait, elle s'auto-exclut du MPCC, mais elle ne va pas à l'encontre des règles de l'UCI. Ce n'est pas interdit de prendre le départ avec un taux de cortisolémie effondré. C'est pourtant le cas de Lars Boom. Lars Boom qui s'est dit choqué ce matin, mais qui sera bien au départ tout à l'heure dans exactement 25 minutes. Grosse pression sur les épaules de Lars Boom.
Alors, aurait-il fallu interdire de départ Lars Boom? On est avec David. David qui a suivi évidemment les pérégrinations de Lars Boom et de la formation Astana hier, hein, lorsqu'ils ont appris la situation, évidemment, situation de crise, parce que on sait qu'Astana a quand même été impliqué dans pas mal d'affaires. On sait aussi qu'ils ont failli ne pas avoir leur licence Pro Tour et qu'ils ont donc failli ne pas prendre le départ du Tour et d'autres grandes courses. Hier, évidemment, c'était grosse crise hein, au c'est sein ça. De la formation.
On marche sur des œufs un petit peu du côté d'Astana. Alexandre Vinokourov était très embêté hier soir. Il y a eu réunion de crise dans le hall de l'hôtel vers 23h environ, enfin un peu plus tard. Il y a eu un communiqué de Pondu pour signaler qu'on espérait encore la présence, un changement de coureur quoi, pour remplacer Lars Boom. Et puis finalement, ce matin, ils ont renoncé à ce changement parce que Lucie les en a empêchés et Lars Boom va s'élancer tout à l'heure. Est-ce qu'il fallait l'interdire? Non, c'est simplement tout ça est sur la base du volontariat et comme le disait Vinokourov ce matin, pour l'instant, enfin, il n'enfreint pas aucune règle juridique du côté de l'UCI.
Mais cela peut quand même placer la formation Astana, Fred, en situation délicate. On sait qu'elle a une sorte de période probatoire vis-à-vis de l'UCI. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça
elle est borderline. Bon, ce sujet est très, très borderline pour Astana. C'est vrai qu'il a fallu présenter des garanties en début d'année à l'Union Cycliste Internationale, montrer sa bonne volonté chez Astana. Non, on n'a pas eu des tricheurs. Alors oui, on a eu 2 cas positifs à l'EPO en 2014, mais on a des entraîneurs qui suivent de près les coureurs, on adhère au MPCC, allez, on est bon, on est clean, on va se rallier à cette cause du cyclisme propre. Si se rallier, c'est ne pas respecter les consignes du MPCC, à quoi bon? L'UCI va peut-être en tenir compte dans les jours, les semaines qui viennent.
Ouais, même si l'UCI a quand même fait preuve là d'un peu trop de rigueur à mon avis, c'est-à-dire on aurait dû l'autoriser Astana à remplacer.
Il y a plusieurs choses, il n'y a pas vraiment de chance en plus. Et effectivement, par rapport à ça, c'est que dans les autres courses toute l'année, parce que là on les en a empêchés de le remplacer parce que la réunion des directeurs sportifs avait eu lieu vendredi à 10h30. Ils ont été informés du taux de cortisolémie effondré, trop bas, à 14h simplement. Or dans les autres courses toute l'année, c'est à 17h qu'elle a lieu cette réunion, donc c'est ce qu'on disait du côté d'Astana. Ouais. Pourquoi ne pas faire une exception et finalement, puisque c'est dans la base du volontariat, pouvoir leur permettre de faire ce changement de coureur. Ça a été refusé. Le règlement est pas forcément bien fait à ce niveau-là parce que le MPCC lui-même a demandé qu'on puisse faire les changements jusqu'au dernier moment. Peut-être qu'à l'avenir ça sera possible, en tout cas ça l'était pas aujourd'hui. Voilà pourquoi Lars Boom va prendre le départ.
Cyril, tu comprends la position d'Alexandre Vinokourov de faire participer son coureur. Partir à 8 dès la première étape du Tour de France, c'est évidemment un gros handicap pour une équipe qui vise on le rappelle, la victoire avec Nibali dans ce Tour de France. Hein.
Oui, mais je crois que le plus important pour une équipe qui est quand même en délicatesse avec des contrôles positifs permanents dans l'ensemble de l'organisation de l'équipe Astana, c'est-à-dire y compris les équipes réserves, je pense qu'ils auraient dû surveiller de beaucoup plus près leurs coureurs plutôt que d'attendre de se retrouver avec un contrôle litigieux, parce que si vous n'avez pas par hasard un effondrement de votre cortisolémie, ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose sur le plan biologique de l'individu. Donc ils auraient peut-être dû faire des prises de sang avant celle de, du MPCC, et à ce moment-là ils ne présentaient pas ce coureur-là, ils en prenaient un autre. Et puis tous les discours que vous avez évoqués, pour moi tout ça c'est du blablabla et du remplissage de cases.
Pardon ?
C'est du flan. C'est du flan, le discours d'Astana.
Ah oui, d'accord.
Le discours d'Astana vis-à-vis de l'UCI. On se refait une virginité. C'est du flan pour Cyril. Cyril parle d'une... de paramètres physiologiques qui sont modifiés et qui ne se modifient pas par hasard. Rappelons tout de même que... les coureurs, cyclistes et tous les sportifs ont des AUT, les autorisations à usage thérapeutique.
On ne sait pas encore si,
on ne sait pas s'il a été autorisé à prendre, Beaucoup de coureurs sont autorisés à prendre des médicaments, notamment contre l'asthme. Lars Boom a révélé ces dernières heures qu'il était asthmatique, comme tant de coureurs cyclistes.
Il utilisait un spray,
Et voilà. Et il a sans doute une AUT pour ça. Alors oui, il a peut-être pris un produit interdit, mais pour lui, c'est autorisé. Ça se fait beaucoup dans le cyclisme, c'est autorisé.
Oui, mais Frédéric, dans ce cas-là, il présentait, il donnait son AUT et il n'était pas cité au niveau des coureurs ayant des problèmes biologiques.
Non, je pense que le MPCC ne se préoccupe pas des AUT, il regarde simplement si la santé du coureur est en danger.
Ce qui est sûr, c'est, alors, comme le soulignait Marc Madio ce matin, c'est que là, pour le coup, Astana a perdu une belle occasion de se refaire un petit peu, améliorer son image, parce qu'ils avaient l'occasion en disant, effectivement, les règlements, bon, c'est contre nous. On part à 8, d'accord, Lars Boom, il part pas. On part à 8, et on verra ce qui se passe, mais en tout cas, au niveau de l'image du cyclisme, ça aurait été un geste fort. Là, à l'inverse, la conséquence, c'est qu'au mois de septembre, au prochain conseil d'administration du MPCC, eh ben, ils vont être mis à la porte.
Là, c'est un bras de fer, hein. Ouais, c'est un nouveau bras de fer qui est engagé entre l'UCI et
Lars Boom, on le rappelle, vainqueur de l'étape des pavés l'année dernière et qui doit justement protéger Nibali dans cette étape qui sera clé cette semaine.
Ceci dit, il n'y a aucune preuve d'une prise de médicaments. Ça peut être la baisse du taux de cortisolémie. Ça peut être une baisse naturelle. Par contre, si c'est une baisse naturelle du taux, ça peut être très dangereux pour le coureur.
Tout à fait.
Que le médecin d'Astana, après presque Divino Kurov, a dit que c'était OK, qu'il n'y avait aucun risque que Lars Boom prenne le départ tout à l'heure.
Très bien. En tous les cas, elle prendra le départ dans quelques minutes. Merci David Opozinski du Parisien aujourd'hui en France. Toutes les infos, évidemment, à retrouver demain dans le Parisien. Des potrons minés.
Évidemment.
Hein. Et tu nous rejoindras comme ça tous les jours pour la petite question du jour. Le premier débat de la journée dans l'après-midi. 16h25. Rapidement, on freine un point sur les chronos avant de s'interrompre quelques instants.
Un peu plus de 130 coureurs à en avoir terminé avec ces 13 km 800 du chrono inaugural du Tour de France 2015. Juan Dennis, l'Australien de l'équipe BMC, est toujours en meilleur temps avec 15 secondes d'avance sur son second, un Hollandais, Van Emden. Castro Viejo, l'Espagnol, 3e. Thibaut Pinot est toujours 9e. Très bonne performance, il ne lâche que 41 secondes. Sachez qu'en ce moment, en piste, l'un des favoris pour le premier maillot jaune du Tour, Tom Dumoulin, la pépite hollandaise du chrono, est en train de faire parler les chevaux. On en reparle dans quelques instants. C'est peut-être lui la grande surprise du jour.
Dumoulin va très vite cet après-midi sur les routes d'Utrecht. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va faire un petit tour à Wimbledon avec Eric Salio. Tsonga opposé à Karlovic. Où en est-on, Eric ?
À 7-0 pour Ivo Karlovic, qui a remporté le tie-break de la première manche assez nettement, 7 points à 3. Mais Tsonga a réalisé le break dans le deuxième. Il sert même pour égaliser à une manche partout. Il y a 5 jeux à 4 et bientôt 30-0, je l'espère. Voilà, c'est fait, 30-0. Normalement, on devrait être à 1-7 partout dans quelques minutes. Et puis sur le central, Roger Federer ne mène plus que 2 manches à 1 face à l'Australien Sam Grove, qui a remporté le tie-break du troisième.
Merci Eric. Et puis un petit tour sur le golf avec l'Open de France, la troisième journée, et Victor Dubuisson qui est sur les greens aujourd'hui. Damien Gassioso, bonjour Damien.
Bonjour à tous. Oui, Victor, après 13 trous, on est à moins 2 cet après-midi. Il est tranquillement installé dans le top 10, même si on l'a vu un petit peu agacé quand ses coups ne lui plaisaient pas. Ça va un petit peu mieux puisqu'il a rentré 3 birdies consécutifs tout à l'heure, un score de moins 6 au total. Troisième position actuellement pour Victor Dubuisson.
Merci Damien. Allez, il est 16h27. On se quitte quelques instants. On revient sur la route du Tour. Tom Dumoulin va peut-être s'emparer du meilleur temps dans quelques instants. Le Néerlandais follement acclamé ici sur les routes, plutôt dans les rues d'Utrecht. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
16h30 sur RMC, l'intégrale Tour de France, première étape de cette grande boucle 2015 avec ce premier et dernier chrono individuel du Tour de France entre Utrecht et Utrecht, 13 km 800 sous une lourde chaleur, plus de 35 degrés, Cyril le disait tout à l'heure, même 40 degrés probablement sur la route. On va faire un nouveau point sur la course alors que tous les grands favoris ne se sont pas encore élancés, ils vont le faire petit à petit, mais on a quand même deux des grands champions annoncé de ce Tour de France qui en ont terminé, Fred, et notamment Thibaut Pinot qui a fait mieux que se défendre sur cet exercice chronométré.
Oui, Thibaut Pinot qui lâche 41 secondes sur ses 13 km 800 au meilleur temps provisoire, toujours détenu par l'Australien Rohan Dennis de l'équipe BNC, un super spécialiste de l'exercice chronométré. Thibaut Pinot 9e du classement provisoire alors que 135 coureurs en ont terminé, ont franchi la ligne. Thibaut Pinot qui a pris 20 secondes à un Quintana qui pourtant avait réalisé un très beau contre-la-montre. Les deux grimpeurs ont fait parler les watts, tout comme en ce moment sur le parcours. En ce moment, dans les rues d'Utrecht, la star locale, Tom Dumoulin, rouleur de l'équipe Giant Alpecin. Tom Dumoulin, acclamé star d'un jour et peut-être star toujours s'il endosse le maillot jaune ce soir dans son pays, le pays du vélo. Il lui reste tout de même 7 km à parcourir, mais qu'est-ce qu'il est puissant, ce grand gabarit au maillot noir de Team Giant.
Dumoulin, c'est pas tellement néerlandais comme nom, ça. Hein
c'est. Vous croyez que c'est wallon. Français, tous c'est autour wallon. De cette table. Hein. C'est wallon.
Son papa, je crois.
Son papa vient d'une famille wallonne, effectivement.
Très bien.
Alors, pour l'instant, il tourne sur une base de 1,05 km, ce qui le met dans les temps de Rohan Dennis.
Ce qui le met dans les temps de Rohan Dennis, non
Rohan Dennis.
Rohan Dennis, c'est en Formule 1, ça me semble.
Rohan Dennis, il va passer dans un instant au seul passage intermédiaire. Rohan Dennis qui compte toujours une seconde d'avance sur Tom Dumoulin. Le meilleur temps provisoire était à l'actif d'un autre Hollandais, Van Mendem, mais il s'est complètement écrasé dans la deuxième partie. Tout va se jouer dans les 6 derniers kilomètres de ce contre-la-montre dans les rues d'Utrecht.
Il fait chaud, très chaud aujourd'hui sur les routes du Tour. Le goudron va fondre. On va se demander à ce Dédé ce qu'il en est.
Il est où ce Dédé?
Il n'est même pas sur la route, c'est n'importe quoi ça. Il n'est jamais sur la route en fait.
C'est une escroquerie.
Il fait la route le matin pour arriver à midi pour casser la croûte.
Et puis après, c'est
ensuite,
une escroquerie, c'est ça.
Une petite sieste et
ouais,
puis il vient
nous voir. Bien sûr. Ça va bien. Ça va bien.
De l'Assemblée des départements de France. Enfin là, tu fais pas grand chose ici. Hein. Ce sont quand
non,
même
on vérifie la route. Quelques kilomètres à vérifier aujourd'hui. C'était pas très très compliqué. On a fait un passage avec la balayeuse où il y aurait 2-3 choses à balayer, mais on savait que ça allait être propre. De toute façon, c'est barriéré, donc il y a pas beaucoup de risques.
Mais je sais quel est ton mot préféré du mois de juillet.
Ah, ça commence par un R, c'est ça, le ressuage.
Le ressuage, c'est-à-dire que le goudron fond, c'est ça.
Phénomène de dégradation de la chaussée dû à la fois à la forte chaleur et au passage répété de véhicules plutôt lourds. C'est ce qui se passe avec le passage des véhicules de la caravane publicitaire et ensuite des véhicules de suiveurs sur des routes surchauffées par le soleil d'été. Et les risques, c'est cette route qui se dégrade, qui avec un revêtement, un goudron qui fond, qui commence à avoir un peu une consistance de chewing-gum avec un double effet.
Je te rassure, c'est pas ça à cause glisse. Des motos, hein, puisque les motos, que les câbles autoradio sont interdites. Hein,
c'est bien, puisque Marco a fait le
c'est
petit
trop
tour
dangereux,
aujourd'hui.
Ça pourrait abîmer les voitures invitées, tu comprends, ce serait vraiment embêtant quand même.
Et ouais, donc là, pas de risque avec les motos aujourd'hui. En plus, Marco était avec nous dans la balayeuse.
Ah bah, du coup, là,
il a fait un tour avec Gros Léon, il était ravi comme un gamin, donc tant mieux. Au moins, il aura gagné ça.
Très bien, André. Bon, demain, étape exceptionnelle avec l'arrivée en pleine mer ou quasiment sur une digue géante. Là, il y aura beaucoup de vent.
Il y aura du vent, il y aura aussi un record, on commence bien. Le record du nombre de ronds-points, on est à 54 ronds-points demain.
Ah, il n'y a pas que nous.
Non, ils aiment bien aussi ici.
Ben, je me souviens en 1996 en Hollande, on avait comptabilisé plus de 80 ronds-points.
Plus de 50, c'est un truc assez exceptionnel. Surtout si avec quelques gouttes, on parle éventuellement de quelques gouttes et quelques orages. Et donc là, si ça glisse avec des routes qui ont été surchauffées, qui ensuite prennent l'eau, et les ronds-points
qui
en avant marche,
qui se frottent les mains, un peu d'eau, un peu de vent, le druide
va se régaler demain. Ouais. Ce sera bien le seul. Merci Dédé en tous les cas pour toutes, sur toutes ces infos. Tu reviens évidemment tous les jours pour nous donner des nouvelles de la route de ce Tour de France. Merci Monsieur André. Dumoulin va très très vite. Mmh. On est à 4 km de l'arrivée. Il est à 4 km de l'arrivée, Fred.
Ah, si José, je dirais qu'il tourne très vite Dumoulin en ce moment à 4 km de l'arrivée. Il est à plus de 55 km/h dans les portions droites. Il ne freine que quand il y a besoin et il doit avoir les oreilles totalement explosées, Tom Dumoulin, car la foule est immense ici à Utrecht, au cœur des Pays-Bas, dans la capitale du vélo. Dumoulin est attendu et on a vu depuis le départ tout à l'heure à 14h, depuis le départ de ce contre-la-montre, que tous les Bataves sont survoltés. Je parle des coureurs qui font un tir groupé en haut du classement provisoire pour l'instant. Van Emden 2, Kelderman 4, Gesing 5, Mollema 6. Ils sont comme chez eux et ils ont fait apparemment de ce contre-la-montre de 13 km 800 le grand objectif de leur mois de juillet, bien avant l'Alpe d'Huez, que l'on appelle la montagne orange. Les Hollandais sont pour de bon incroyable chez eux ici à Utrecht.
Incroyable ambiance, on a l'impression d'être revenu un an en arrière dans le Yorkshire avec cette ambiance extraordinaire et ces millions de Britanniques qui avaient pris place sur le bord des routes. C'est fou hein, la popularité du Tour de France à l'étranger, même en France évidemment, mais là en Hollande, pays du vélo, c'est impressionnant. Tiens Georges, raconte-nous un peu l'ambiance qu'il y a au départ. Bon, évidemment les gens sont surtout massés sur les bords des routes pour encourager les coureurs, mais au départ aussi il y a beaucoup de monde hein.
Oui, même si c'est un peu plus difficile d'accès pour les supporters au départ, c'est vrai que lorsque Tom Dumoulin s'est présenté tout à l'heure au podium, on a vu une vraie effervescence. Déjà, il y avait énormément de monde autour de son bus, énormément de photographes qui l'ont suivi. On avait l'impression que c'était le favori du tour même qui est arrivé sur l'aire de départ. Il a été énormément encouragé. On a entendu une holla là et des drapeaux hollandais et orange qui se sont levés au moment où Dumoulin arrivait sur le podium. Oui, il y a une vraie ferveur pour les coureurs néerlandais et pour tous ces coureurs de la formation Lotto Jumbo, formation néerlandaise. Je ne sais pas qu'il y en a un qui se présente au départ.
Oui, formation pour laquelle ne court pas Tom Dumoulin, on le rappelle, coéquipier de John Degenkolb dans le team Giant Alpecin. Degenkolb qui adore ce genre de chrono de 10-15 bornes, qui a fait, on vous le rappelle, c'est quand même l'info du jour pour l'instant, qui a fait moins bien que Thibaut Pinot. Pinot toujours dans le top 10 provisoire alors que près de 140 coureurs en ont terminé. Thibaut Pinot qui a mis 20 secondes à Quintana, on le rappelle.
Très bien, le 32-16 est ouvert, on vous attend au 32-7. Johnny a composé le 32-16 pour nous parler à la Dream Team. Salut Johnny.
Bonjour messieurs.
Bon, salut Johnny, est-ce que tu te régales dans les premières heures de ce Tour de France?
Ah bah tout à fait, mais de toute façon là Tom Dumoulin je pense qu'il va faire quelque chose. Après il y a Cancella et Tony Martin qui vont être là. Ça c'est une chose. Après bon bah Contador, Froome et puis bon bah eux ils vont se caler pour être tranquilles avant l'arrivée dans les Pyrénées. Mais bon, la chance qu'on a cette année, c'est qu'on va avoir un très très joli plateau sur le Tour de France. Tout le monde est là et tout le monde va être au rendez-vous.
Eh ben on espère que les premiers jours ne vont pas se transformer en chose trappe pour les favoris. Rappelle-toi l'année dernière hein, quand même.
Pavé, oui, bon c'est très. Enfin moi personnellement je sais que Nibali il a gagné le tour l'année dernière, pur hasard. Hein. Parce que si Froome tombe pas et si Contador abandonne pas, c'est pas le podium qu'on a l'année dernière. Ça, c'est
enfin, le hasard, tu vas fort, parce qu'il avait quand même réalisé un tour magnifique d'Ibali. Hein. Je suis pas sûr qu'il aurait.
Sur les pavés, il voltigeait. Il avait gagné l'étape dans le Yorkshire.
En tous les cas, on va se régaler. Et tant mieux. Nous aussi, on espère qu'on va se régaler. Merci, Johnny, d'être venu au 32-16. Et on espère te retrouver d'ici la fin de ce Tour de France. Tom Dumoulin dans les derniers hectomètres de cette étape. Fred, va-t-il réaliser le meilleur temps ou sera-t-il derrière l'Australien Dennis?
Ça se jouera à très peu de choses.
Je pense qu'il est un petit peu en retard sur l'Australien.
Oui, Dennis qui avait terminé comme un boulet de canon, vraiment son chrono. Attention, Tom Dumoulin, les 350 derniers mètres, gêné par un coureur de l'équipe Katiusha. Tom Dumoulin, gêné par le Portugais Machado. Il a dû déboîter à 200 mètres de la ligne. Il sera battu, Tom Dumoulin, mais pour quelques secondes. Ce ne sera pas lui le premier maillot jaune du Tour de France. Il ne deviendra pas la grande star locale devant des centaines de milliers de spectateurs ici à Utrecht. Tom Dumoulin, grand rouleur de 24 ans qui concède 8 secondes à l'Australien Rohan Dennis, qui sera très très dur à déloger l'ancien recordman de l'heure, Rohan Dennis, vainqueur du Tour Down Under, qui a un grand sourire serein. Rohan Dennis, un garçon très sympa qui va très très vite, encore plus vite que Tom Dumoulin chez lui sur ses terres, c'est dire.
Et il nous reste encore deux favoris qui vont s'élancer dans les minutes qui viennent. Fabian Cancellara qui a porté qui a remporté à plusieurs reprises la première étape du Tour de France, et puis évidemment le Panzer Tony Martin, l'allemand, qui s'élancera tout à l'heure. Petit tour par Wimbledon. Joe Wilfried Tsonga était tout à l'heure en difficulté. Eric Salio, a priori ça s'est amélioré pour Joe, hein.
Un set partout entre Joe Wilfried Tsonga et Ivo Karlovic. Le Croate avait remporté le premier au tie break, mais Joe a su faire le break au deuxième. Il a tenu sa mise en jeu, donc un set partout, 6-4. Au tout début du troisième set, il y a 2-1 pour Karlovic, qui évidemment soigne ses stats, puisque je regarde, il en est à 24 aces. Et puis qualif à l'instant même de Roger Federer. Sans surprise, il bat l'Australien Sam Groff en 4 manches, 6-4, 6-4, 6-7, 6-2. On connaît la première affiche des huitièmes de finale du bas de tableau, ce sera Federer Bautista Agut.
Merci Eric, à tout à l'heure pour la suite de ce match entre Tsonga et Karlovic. 16h41, vous êtes sur RMC, l'intégral tour. La grande bagarre de cette première étape a déjà débuté. Les grands favoris vont se lancer dans quelques minutes. On vous rappelle que Thibaut Pinot est toujours ou quasiment dans le top, toujours dans le top 10, Fred.
Non, 11e puisque Dumoulin s'est intercalé évidemment.
Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de cette première étape. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et toute la Dream Team pour vous faire vivre cette grande boucle 2015 qui a donc débuté à 14h avec cette première étape, ce contre-la-montre d'à peu près 14 km, 13 km 813 exactement, dans les rues d'Utrecht aux Pays-Bas, rue surchauffée. Il fait plus de 40 degrés sur le bitume et en plein soleil, ce qui n'empêche pas évidemment les coureurs de tout donner dans cette première étape. Ils n'auront pas beaucoup l'occasion de briller dans les chronos, car on le rappelle, c'est le seul et unique chrono individuel de ce Tour de France. Il y aura également un chrono par équipe dans quelques jours. Tiens, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport, et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, appelez le 3216 touche 6 ou envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance. Il est quelle heure? Il est 16h46. On entre donc dans le money time de cette première étape, Fred, et avec notamment l'entrée en scène de l'un, sinon le grand favori de cette étape, l'allemand Tony Martin, dit le Panzer.
Oui, l'ancien champion du monde détrôné, on s'en souvient, en septembre dernier à Ponferrada par Bradley Wiggins dans l'exercice chronométré. Il continue de porter un maillot distinctif puisqu'il est champion d'Allemagne de la spécialité. Tony Martin, effectivement, bien parti de manière peut-être un peu puissante. Il manque peut-être de vélocité et de sens de la trajectoire. Tony Martin qui va faire parler ses nombreux watts, sa puissance sur les 13 800 km, mais ce sera dur tout de même d'aller chercher Rohan Dennis, l'Australien de 25 ans, coureur de l'équipe BMC, qui depuis très tôt cet après-midi est à la tête du classement provisoire et qui compte 8 secondes sur le podium provisoire, 8 secondes d'avance sur Tom Dumoulin, battu comme Alex Dowsett, l'ancien candidat au record de l'heure. Rappelons l'excellente 12e place de Thibaut Pinot, le grimpeur français qui n'a lâché que 41 secondes à Rohan Dennis et qui a donc pris 20 secondes à Quintana. C'est la très très belle surprise du jour.
Alors que Luc Leblanc a été surpris par la tenue de Vincenzo Nibali il y a de cela quelques instants. Nibali, le champion d'Italie, vainqueur sortant du Tour, qui a une drôle de jaquette, là, un drôle de petite veste.
Un
là.
Costume en glaçon.
Un costume en glaçon, c'est pas mal ça.
Bah, oui.
On pourrait peut-être le faire.
Je sais pas, des glaçons qui fondent sur lui et tout, je sais pas, ça ramène de la fraîcheur certainement. Il veut éviter d'avoir trop chaud avant le départ de ce chrono.
Après le bonhomme de neige, le bonhomme de glace, bonhomme Nibali. De glace,
exactement. Georges Quirino qui est avec les gens de la FDJ au départ. Non, ils sont arrivés. Enfin, en tous les cas, Thibaut Pinot est arrivé. Hein,
non. oui, non, c'est juste pour faire une petite carte postale de la FDJ que je suis allé voir il y a
après l'arrivée de Thibaut Pinot qui a été accueilli par son manager Marc Madiot avec une tape dans l'épaule. Bien joué petit, lui a-t-il lancé. Pinot qui est rentré directement dans le bus avant de ressortir et faire un petit peu de home trainer. Il avait l'air assez satisfait de lui hein, quand même Thibaut Pinot, et Marc Madiot qui a tout de suite calmé les journalistes. Voilà, c'est bien, c'est plutôt la moyenne haute de ce qu'on pouvait espérer, notamment à propos des 20 secondes pris par rapport à Nairo Quintana. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des sourires à la FDJ où on reste quand même prudent avant la semaine qui arrive et qui s'annonce très stressante. Tiens juste Christophe, une petite carte postale de l'aire de départ là où il y a Peter Sagan qui va s'élancer dans quelques instants, le coureur de l'équipe Tinkoff Saxo, suivi de très près par son patron Oleg Tinkoff, le riche russe propriétaire de l'équipe qui est là. Il n'a plus les cheveux roses puisqu'il s'était teinté les cheveux après la victoire de Contador sur le Tour d'Italie. Il a les cheveux blancs et des lunettes phosphorescentes, je pense, tellement elles sont fluo. Star du départ, Oleg Tinkoff, on est sûr de ce Tour de France avec ses remarques, notamment à propos de Contador. On va le suivre certainement tout au long.
Ah, on a perdu. On est en train de perdre Jean, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Donc Tinkoff effectivement qui met beaucoup de pression à ses coureurs, qui est très présent mais qui est très impliqué aussi. T'en as connu beaucoup comme ça des patrons d'équipe ou des sponsors, Cyril, aussi présents que Oleg Tinkoff? Est-ce que ça t'aurait plu d'avoir un patron comme ça par exemple?
Bien, déjà je n'ai jamais eu de patron milliardaire.
Oui, t'étais le patron toi.
Donc n'ayant pas eu ce type de personnage, ça pouvait pas se produire. Il a besoin de jouer un rôle. Oh, quelque part, attendez, quelque part, ça ressemble à du tapis quand même.
Hein. Oui, c'est sûr. Exactement.
C'est le tapis russe, hein. C'est un oligarque. On est dans du tapis puissance 10, on va dire. Ouais. Les fonds sont illimités et comme c'est un grand malade, il y a tous les ingrédients pour faire le show. Disons que ça apporte quelque chose au vélo, mais le côté humain et le côté sportif n'en sort probablement pas grandi. On ne manage pas une équipe comme le fait Oleg Tinkoff. C'est pas comme il le fait qu'on traite les coureurs.
Patrice est avec nous au 32-16 pour nous parler de ce Tour de France qui débute évidemment avec beaucoup d'espoir pour tout le monde, pour tous les passionnés de vélo, tous les passionnés de ce Tour de France. Salut Patrice.
Bonjour.
Bon, alors.
Voilà. Oui. Eh ben, ma question est celle-là. Enfin, tout le monde constate, et je suis de ceux-là, qu'on part sur un grand Tour de France puisqu'on a quatre favoris qui sont tous vainqueurs de tours, hein, tout au moins de grands tours, même multirécidivistes. On a derrière des outsiders et des coureurs en devenir, surtout au niveau français. On a aussi un tour très bien structuré avec pas trop d'emprise des contre-la-montre et puis deux parties assez différentes avec une qui se ressemble un petit peu au classique et l'autre à la montagne. Par contre, je me demande si la mariée est pas trop belle, dans la mesure où on a maintenu malheureusement les oreillettes. Alors, j'en parle un petit peu, surtout que il y a des années, j'en fais référence au druide, à Cyril Guimard, il n'y avait pas besoin d'oreillettes avant pour que les coureurs prennent des initiatives ou pour que des plans soient mis en route pour les faire gagner. Je me souviens d'un Tour d'Italie où Cyril Guimard avait fait squeezer le ravitaillement. Vous savez, bénéficier, il me semble que c'était à Guido. Hein, voilà. Juste, et je termine, un petit bonjour particulier à Lucio, dont j'étais l'année passée présent à son jubilé, ce que j'ai apprécié. Ça m'a permis de rencontrer d'ailleurs Fred Adam, mais aussi d'autres coureurs, dont le grand copain de Lucio, qui est... Pardon, je suis un peu ému. Ah,
c'est un grand souvenir, ça nous a tous émus ce moment.
Ah oui, c'est un grand souvenir.
Les 20 ans du titre de champion du monde
qui avait été sacré. Et moi, ça m'avait permis d'offrir un petit dessin avec humoristique encadré à Lucio avec un petit propos sur le vélo que j'avais composé en son honneur. Voilà. Alors, ces oreillettes.
Alors, on va poser la question au druide, mais on connaît déjà la réponse de Cyril, hein, parce qu'en matière d'oreillettes, dès qu'on lui parle d'oreillettes, il voit rouge, tu sais, comme un taureau, hein, qui fonce dans les oreillettes. Cyril.
Oui.
Bon, les oreillettes. Évidemment.
Oui, j'entends pas. L'oreillette grésille.
Oui, tout à fait.
Bon, les oreillettes, vous savez que les oreillettes sont interdites dans la circulation automobile en France depuis le 1er juillet. Donc, a priori, les coureurs, on va leur retirer les oreillettes dès qu'ils vont passer la frontière, Cyril. Ça, c'est une bonne nouvelle, non?
Logiquement, c'est l'application de la loi et du code de la route. Normalement, c'est interdit, comme c'est interdit d'ailleurs aux chauffeurs de communiquer avec le coureur au travers d'un système téléphonique. Mais ça, c'est la loi. Mais vous savez que la loi n'est pas toujours respectée. Et en la matière, je doute que les gens prennent leurs responsabilités. S'il y avait un grave accident, ça pourrait coûter très cher.
Mmh. Ouais, il y a eu déjà des chutes hein, par rapport aux oreillettes. Qu'on le veuille ou pas, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, bien sûr. Moi, je fais partie des contre les oreillettes, tout comme Cyril. Donc voilà, on va voir sur les étapes, tiens, comme celle de demain, avec le vent, les bordures, si les coureurs sont pas assez concentrés, parce qu'il va falloir beaucoup de son concentration demain, surtout dans le final. Donc on peut s'attendre à voir peut-être quelques chutes avec les oreillettes en plus. Ils n'entendent pas forcément les coups de frein, le bruit. Voilà, parce que quand il y a un danger, en général, en règle générale, les coureurs s'avertissent, hein, font signe de la main et tout. Voilà, il y a danger. Et à partir du moment où le directeur sportif leur parle dans l'oreillette et s'ils voient pas le coureur devant eux leur dire qu'il y a un danger, voilà, ça peut faire des dégâts.
Voilà, donc la réponse, Patrice. On aura l'occasion d'en reparler évidemment.
D'en reparler. Récurrent.
Pour information, Tony Martin est en retard.
Merci Patrice en tous les cas.
À bientôt Patrice.
À bientôt Patrice.
Donc Tony Martin est en retard. Cyril,
ça se joue à pas grand chose.
Oui, c'est 4 secondes. Il est en 1.5.05 à peu près. Je pense que ça va peut-être pas trop s'arranger pour lui parce qu'il vient de rater un virage. Ouais. Il a pas perdu beaucoup de temps, mais sur la relance, il était arrêté. Là, c'est une bonne seconde, peut-être une seconde et demie de perdu sur ce virage.
Très bien. Lars Boom au départ, celui dont on entend parler beaucoup depuis hier soir, à environ 22h. Lars Boom, donc taux de cortisol effondré. Il prend des risques pour sa santé là en prenant le départ de ce Tour de France, Fred.
Je ne sais pas. Je suis pas médecin. Il est coureur. Il sait comment il se sent et apparemment il part très bien. Rappelons que c'est un coureur qui adore ce genre de long contre-la-montre. Lui qui avait remporté un prologue sur Paris-Nice, Lars Boom, ce serait tout de même un sacré pied de nez aux organisateurs du Tour, au mouvement pour un cyclisme crédible comme on a cesse de le répéter depuis ce matin, si Lars Boom était le premier maillot jaune du Tour.
Tiens, on va vite derrière.
Je voudrais quand même ajouter c'est que s'il a une chute effectivement de ses taux, logiquement il doit manquer de force. Hein. Ou alors c'est qu'il s'est passé autre chose.
Très bien. Pierre-Yves Leroux avec Brice Feuillu derrière lui arrivé, me semble-t-il.
Tout à fait, on est là avec Brice qui est reposé, détendu, qui arrose les gens autour de lui. On n'a pas l'impression qu'il ait souffert beaucoup, Brice.
Si, pourtant, j'ai souffert un peu. Un peu, même beaucoup. Et le retour, il est incroyable. On sent quand même le vent malgré la foule. Et le vent s'engouffre en fait entre les gens. Je pense que c'est pas une bonne chose d'ailleurs. Mais voilà, ça file les frissons du début à la fin avec tous les gens au bord des routes. Mais j'étais pas sensationnel aujourd'hui. C'était le premier gros effort depuis un petit moment. Le dernier, on va dire, c'était les championnats de France. Et c'était difficile pour moi aujourd'hui.
Le vent que tu évoquais, il sera présent aussi très certainement demain. Il y a des stratégies, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller principalement?
Les équipes qui se regroupent à l'avant forcément pour éventuellement causer une bordure. Et forcément pas se faire piéger. Et au moins qu'on puisse mettre devant sans problème Eduardo Sepúlveda, donc pour le général qu'il n'ait pas de soucis demain. Puis bien évidemment, après, pour nous, les autres coureurs, se placer aussi dans la bagarre.
Pour prendre la direction de la Bretagne après, où vous serez un peu chez vous.
Voilà, tout à fait, exactement. Donc on sera à domicile et ça, on aura tous à cœur de briller là-bas.
Merci beaucoup Brice, bon Tour de France évidemment, on aura l'occasion de se retrouver.
Merci Brice Feuillu, membre de l'équipe Bretagne séchée. Allez, il est 16h57, on va se quitter quelques instants. Tony Martin qui file vers l'arrivée, il a peut-être un petit peu de retard. Rohan Dennis, l'Australien, sera difficile à déloger de sa première place. Verdict de cette étape, on vous le rappelle, à 17h32, à 17h17 s'élancera le dernier coureur de cette première étape, un certain Vincenzo Nibali, avec son beau maillot vert, blanc, rouge de champion d'Italie. À tout de suite sur
RMC Intégral Tour.